Cher Théophile, pardon, cher Chaudefonnier, cher Loclois, cher Jean des Brenets, cher Jean des Franches-Montagnes, cher Jean de la région et des alentours, cher Jean de la France et encore plus loin, dans mon livre, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie, à la Chaux-de-Fonds, au Locle, aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Vous l'aurez compris, ce matin, on va parler de l'ascension de Jésus. Parce que c'est d'actualité. Ce n'est pas aujourd'hui, c'était jeudi qu'on a fêté l'ascension de Jésus. Et c'est vrai que l'ascension, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup plus de la crucifixion de Jésus. On parle beaucoup de la résurrection de Jésus. Mais l'ascension, qu'est-ce que c'est l'ascension ? Peut-être même que dans la salle, il y a des gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est, tellement on en parle peu. Si l'histoire s'était arrêtée à la résurrection, eh bien, l'œuvre de Jésus aurait été inutile. Là, je pousse un peu le bouchon, je provoque un peu. Est-ce que la résurrection aurait été inutile ? Je provoque, mais regardez les disciples. Est-ce que la résurrection, si ça s'est arrêté là, est-ce que ça a changé leur vie ? Eh bien, pas tellement. La preuve, on va voir. Pendant trois ans et demi, les disciples étaient avec Jésus presque jour et nuit. Ils étaient enseignés. Jésus leur a expliqué des choses. Ils rebondissaient sur la parole de l'Ancien Testament. Ils expliquaient pourquoi il était là, ce qu'il allait faire. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Pour eux, ils ont compris qu'il était le Messie, l'envoyé de Dieu. Même à un moment donné, Pierre, il a dit « Tu es le Fils de Dieu ». Mais en fait, ils pensaient que ce Fils de Dieu, ce Messie, allait les délivrer de l'envahisseur romain. Ils n'avaient pas compris. En fait, ils sont restés dans quelque chose de géographique et géographique restreint, quelque chose de naturel. Ils n'ont pas compris qu'on était dans une dimension universelle et spirituelle. Ils n'ont pas compris. Et la preuve, on peut la lire dans Matthieu 20. Oui, je vais vous faire un petit peu voyager, mais vous pouvez mettre un doigt à Luc 24. Surtout à Luc 24. Comme ça, si on bouge, vous reviendrez toujours au bon endroit. Dans Matthieu, dans Matthieu 20, les versets 17 à 21. Donc Jésus n'a encore pas passé par la croix. Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin : Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Jésus est clair. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ils n'avaient rien compris. Jésus est en train de dire : Je vais être crucifié, je vais ressusciter. Personne depuis le temps que les hommes existent avait dit : On va me crucifier, je vais ressusciter. Ça veut dire quoi être ressuscité ? Personne ne sait ce que ça veut dire être ressuscité. C'est juste énorme ce qu'il est en train de dire. Et puis là on dit : Bah moi j'aimerais être à ta gauche, puis moi j'aimerais être à ta droite. Enfin, on est complètement décalé. Les disciples n'ont pas compris. Mais Jésus a été très clair. Et au moment de la crucifixion, les disciples étaient atterrés. Et même, ils n'ont pas osé rester jusqu'au bout. Quand Jésus s'est fait crucifier, ils ont tous fui. Ils ont tous déguerpi, à part Jean et quelques femmes. Ils avaient un sentiment d'échec. Et quand Jésus est ressuscité, eh bien, ils ne l'ont pas cru tout de suite. Et là, on va dans Luc 24, les versets 9 et 11. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres, donc que Jésus est ressuscité. Verset 11. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités, ils ne crurent pas ces femmes. Jésus avait dit : Je vais ressusciter le troisième jour. Et quand on leur dit « c'est le troisième jour, il est ressuscité », ben non, ils ne le croient pas. Ils n'ont rien capté. Et même, au verset 12, « Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre, puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. » Et en plus de ça, ils étaient étonnés. Ils n'ont rien compris et leur vie n'a pas changé. Elle n'a pas changé, la preuve, on l'a... Je vous fais un peu valser, mais là, c'est moi qui valse. Dans Jean 21, Jésus est ressuscité. Je vous lis des versets 1 à 3. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : Je vais pêcher. Ils lui dirent : Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils retournent à leur ancienne vie. Rien n'a changé. Et pourtant, ce que Jésus a fait est énorme. Mais voilà que, depuis la résurrection, pendant 40 jours, Jésus apparaît et Jésus disparaît, et Jésus apparaît et disparaît. Il se fait voir aux disciples, il discute avec eux, il les enseigne encore au niveau du royaume de Dieu, il mange avec eux, et tout à coup, il redisparaît. Donc Jésus est bien vivant. Il est bien vivant, mais il est différent. Il est tellement différent que les disciples ne le reconnaissent pas. Et pour ça, on va prendre quelques passages des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Je vous lis dans Luc 24, les versets 13 à 19. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs. éloignée de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et ils en ont passé du temps avec lui. Et là, il vient physiquement. Ils le voient, ils l'entendent, ils parlent avec lui, mais ils ne le reconnaissent pas. Quelque chose est différent. Au verset 21, Jésus a discuté avec eux, il leur a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et les disciples, ils lui disent « Mais toi, t'es le seul qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Celui qu'on prenait pour le Messie, il est mort. Et puis, ouais, il y en a bien qui disent qu'il est ressuscité, mais voilà quoi. Enfin, ils sont tous, ils sont attristés, ils vont pas bien du tout. » Et ce qu'ils disent, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Mais avec tout cela, voilà déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Ils espéraient que ce soit lui qui délivre Israël, pas l'humanité. Là encore, ils n'ont pas compris. Et ils expliquent à Jésus ce qui est en train de se passer, là où ils en sont. Au verset 25, Jésus, il est excédé. « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Quelque part, il dit, mais enfin, ça fait depuis 4000 ans, ça fait depuis 4000 ans qu'on vous explique les choses et vous comprenez toujours pas. Et en plus de ça, je fais route avec vous, vous comprenez toujours pas. Mais les disciples, là, ne le reconnaissent encore pas. Alors il insiste, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ne fallait-il pas que ça arrive, toutes ces choses-là? Et à ce moment-là, en commençant par Moïse, Jésus leur explique tout ce qui concerne le Messie, du début jusqu'à la fin. Et les disciples ne l'ont toujours pas reconnu, mais ce qu'ils disent, c'est « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et là, il y a un déclic qui a commencé à se faire. Tout à coup, en recevant les explications par les Écritures, de la part de Jésus, pour tout ce qui concerne le Messie, il y a la compréhension qui a commencé à se faire. Il y a quelque chose dans leur intelligence qui s'est ouvert pour qu'ils aient accès à la révélation. Et il y a leur cœur qui brûle. Et le déclic fait qu'ils vont bientôt arriver à Emmaüs, ils sont à pied, et ils rebroussent chemin, ils retournent à Jérusalem pour dire aux disciples, mais en fait, le Messie, voilà ce qui est écrit dans la parole, voilà ce qui est écrit dans les prophètes, dans les psaumes. Voilà ce qui est écrit. Donc, il retourne à Jérusalem pour expliquer ces choses-là. Et c'est seulement au moment où ils sont ensemble avec les disciples que tout à coup, Jésus apparaît. Il rompt le pain et c'est à ce moment-là qu'ils le reconnaissent. Et le jour de l'ascension, Jésus est justement avec les disciples. C'est le 40e jour qu'il apparaît, qu'il disparaît. Je vous lis dans Luc 24 à partir du verset 44. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisa jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant, bénissant Dieu. Jésus se fait connaître aux disciples. Les disciples, ils sont barricadés. Ils ont peur, ils sont enfermés chez eux, et Jésus, il traverse les murs pour aller les rejoindre. Mais Jésus, il est bien en chair et en os. Mais c'est une autre chair et c'est des autres os. Parce que quand il va manger un poisson, ça c'est un poisson, ou bien, oui voilà, ça c'est un poisson, ben, ses mains, elles ne traversent pas le poisson. Il le tient, son poisson. Par contre, quand il décide de traverser le mur, là je ne vais pas pouvoir le faire, eh bien il traverse. Ce n'est pas un problème. J'ai pas envie. Son corps, il est différent. Il y a eu une transformation. Et c'est une transformation qui, nous, pour notre entendement humain, ça va pas. C'est une dimension qui nous dépasse complètement. Mais pourtant, c'est ça un corps de résurrection. Le corps de Jésus, il a vécu une transformation. C'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend, nous. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Parce que là, il est avec eux, mais il parle au passé. J'étais encore avec vous. Parce que maintenant, il est avec les disciples, mais sous une forme différente. Il y a eu un déclic supplémentaire. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet. Et là, pour que les disciples comprennent, parce qu'ils ont de la peine, il leur ouvre l'intelligence. Certainement que c'est par son Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est venu après, 10 jours après. Mais Jésus avait la possibilité de toucher n'importe qui, comme il l'a fait déjà pour les prophètes de l'Ancien Testament. Alors par son Saint-Esprit, il leur ouvre l'intelligence. Et ensuite, seulement une fois que l'intelligence est ouverte, il leur explique, en commençant par Moïse, les prophètes et les psaumes, tout ce qui le concerne. Quand on parle de Moïse, la loi de Moïse, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Quand on parle des prophètes, c'est tous les livres prophétiques. Et quand on parle des psaumes, ça englobe tous les écrits, c'est-à-dire tous les livres poétiques et tout ce qui est aussi historique, tout ce qui n'est pas des prophètes et ce qui n'est pas du Pentateuch. Donc en fait, ça représente tout l'Ancien Testament, le Tanakh. La Torah, c'est les 5 premiers livres, et le Tanakh, c'est tout l'Ancien Testament. Donc Jésus, en fait, il commence depuis le début jusqu'à la fin de l'Ancien Testament pour expliquer tout ce qui le concerne. Et à chaque fois, j'ai été vraiment interpellée par ça, il dit « il fallait ». Il faut ou il fallait. Il fallait que le Christ, enfin que le Messie vive telle chose. Il fallait. Dans Luc 22, au verset 37, il cite, par exemple, Ésaïe 53. Il dit, « En effet, je vous le dis. » Donc ça, c'est avant sa crucifixion, avant le jardin de Gethsémané. « En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse encore dans ma personne ce texte de l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Il faut que s'accomplisse dans ma personne. » Et il cite Ésaïe 53. Ésaïe 53, on devrait le connaître par cœur. C'est Jésus qui s'est fait pauvreté, c'est Jésus qui s'est fait péché, c'est Jésus qui s'est fait malédiction, c'est Jésus qui s'est fait maladie, c'est Jésus qui s'est fait malfaiteur à notre place. Et pour que la colère du Père se déverse sur cette malédiction, sur ce péché, complètement réuni en Jésus, pour que nous on en soit délivrés. C'est cette loi de la substitution. Il fallait que Jésus paye à notre place. Il fallait que quelqu'un paye. Il fallait que quelqu'un remplisse les conditions pour payer à notre place, pour nous donner la délivrance, pour nous sauver. Il fallait. Et Jésus le redit. Quand il est avec les 2 disciples qui vont à Emmaüs, il dit la même chose. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ne fallait-il pas? Il faut. Alors il réexplique la nécessité du sacrifice, la nécessité de la loi de la substitution. Mais ce n'est pas suffisant. Luc 24, verset 26, Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et qu'il entre dans sa gloire. Il fallait que Jésus monte au ciel. Il fallait l'ascension. Parce que quand Jésus monte au ciel, il nous ouvre la voie. Les disciples, avec leurs yeux physiques, leurs yeux humains, ils ont vu le corps de Jésus s'élever dans les cieux. Il y a même une nuée qui l'a entouré. Et la nuée, les nuages, en général, c'est toujours signe de la gloire de Dieu. Ils ont vu Jésus monter dans la gloire. Et si Jésus, il est parti et qu'on l'a vu comme ça physiquement monter dans la gloire, c'est certainement qu'il n'allait pas n'importe où, mais qu'il allait dans un lieu précis. C'est qu'il y a un lieu qui existe. Ce lieu, il est auprès du Père. Et s'il est monté comme ça auprès du Père, la parole nous le dit, il s'est mis à la droite de Dieu, la place qui lui revient. Et être à la droite de quelqu'un, c'est une place d'honneur, c'est une place de gloire. Jésus, il est dans la gloire. Il a la place de gloire, la place de gloire de tout l'univers, de tout ce qui existe. C'est lui qui est à cette place-là. Il a été élevé. Il fallait qu'il soit élevé dans la gloire. Et il est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il siège. Et quand on siège, c'est qu'on a l'autorité. Parce que Jésus, il est souverainement élevé. Il siège en roi. Jésus remplit complètement sa fonction de roi. Il remplit complètement sa fonction de sacrificateur. Il a déjà sacrifié sa propre vie. Il n'a pas besoin de le refaire encore. Mais il intercède auprès du Père au nom de son sacrifice pour nous. Et pour ce qui concerne du prophète, il l'a accompli, toutes les prophéties, il les a accomplies en lui-même. Et il est monté à cette place-là. Et c'est de cette place-là qu'il viendra nous chercher. Et c'est de cette place-là, de cette manière-là, qu'il reviendra sur terre établir son règne. Alors ce que Jésus a fait à l'ascension, c'est qu'il a montré le chemin, c'est là. Et si moi j'y vais, vu que, comme le dit Paul dans Romains 6 ou dans les Colossiens par exemple, c'est que nous avons été crucifiés avec Christ. Nous avons été ensevelis avec Christ. Nous avons été ressuscités avec Christ. Et nous monterons avec Christ. Et actuellement, en espérance et spirituellement, nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu. Mais un jour, ça va se passer réellement physiquement. Un jour, nos corps seront transformés. Et c'est ça que les disciples devaient voir pour le comprendre. Parce que ça change complètement la dimension spirituelle. Ça nous transforme complètement. Notre espérance, elle s'élargit ou elle doit s'élargir. Si elle ne s'élargit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et si on sent ce blocage, on se dit maintenant, mais je ne comprends rien, c'est qu'il faut demander, il faut implorer le Saint-Esprit qui nous donne cette révélation. Il faut lui demander que ça s'ouvre. Il faut lui demander qu'il renouvelle et qu'il ouvre notre intelligence. Ça, c'est notre prière. C'est la prière qui doit déjà commencer ce matin. Et peut-être que là, je suis en train de parler à quelqu'un. Mais ouvre ton cœur. Demande au Saint-Esprit qu'il fasse ce que toi, tu ne peux pas. Il faut comprendre ces choses-là parce que ça transforme la vie. La preuve. Au début, quand les disciples ils ont compris que Jésus était ressuscité, mais qu'ils ne savaient pas quoi en faire, ils avaient la trouille. Ils se sont barricadés chez eux. C'est pour ça que Jésus a dû traverser les murs pour aller les voir, puis leur dire « c'est moi ». Mais ils étaient enfermés. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ils n'avaient plus la trouille. Ils ont eu la compréhension. Tchac, ils ont compris. La pièce de 4 sous, elle est tombée. Ça s'est ouvert. Ils ont compris. Ils sont allés dans le temple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de danger. Mais le danger, c'était rien par rapport à ce qui les attendait. C'était rien par rapport à ce qu'ils avaient compris. Et même, ils n'avaient encore pas reçu la puissance. Le revêtement de puissance du Saint-Esprit, ils ne l'avaient encore pas reçu. Et là, c'est mon interprétation tout à fait gratuite. Mais je pense même que Pierre, tout humain qu'il était, il allait un peu vite en besogne. parce qu'ils étaient tellement tout feu, tout flamme, qu'ils se sont réunis, vu que Jésus leur avait dit « Je vais vous envoyer la puissance, le Saint-Esprit. Attendez à Jérusalem. » Ils se sont réunis, ils ont prié pendant 10 jours. Mais les 10 jours n'étaient pas écoulés. Et Pierre s'est levé et il a dit « Il y a Judas qui n'a plus son rôle d'apôtre. En plus de ça, il s'est suicidé, etc. Il faut le remplacer, il faut qu'on soit 12. » Et ils ont prié, ils ont trouvé 2 personnes, ils ont tiré au sort, ils en ont choisi un. Mais est-ce que c'était juste? Est-ce qu'ils savaient qu'après, par exemple, il y a un Paul, apôtre, témoin de la résurrection de Jésus-Christ? Ou est-ce que cette 12e place, ce serait la nôtre? Ou est-ce qu'il y a encore une autre possibilité? Ou est-ce qu'il fallait choisir, tirer au sort entre ces deux personnes? Moi, je me dis qu'il était tellement tout feu, tout flamme, Pierre, qu'il a un petit peu brûlé l'étape. Jésus leur a dit, allez, priez, attendez, attendez la puissance d'en haut. Et il fallait attendre la puissance d'en haut. Et la puissance d'en haut, c'est dimanche prochain. Alors, je ne sais pas, je n'ai même pas regardé, je ne sais pas qui va prêcher, si ce sera sur le sujet de la Pentecôte, mais ça ne va pas être mon sujet ce matin. L'ascension de Jésus, c'est quelque chose de vraiment important. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut le comprendre parce qu'on va, nous aussi, vivre une ascension. On ne sait pas si on sera déjà mort, parce qu'on sait que dans la parole, il y a marqué que les morts en Christ ressusciteront premièrement, ou si on sera bien vivant, parce que c'est pour tout bientôt. C'est l'un ou l'autre. Mais de toute façon, on y va. Mais si on ouvre nos yeux spirituels et nos yeux naturels, et on regarde ce qui se passe autour de nous, si on regarde les évolutions, moi je peux vous dire que c'est pour bientôt. Si vous regardez ce qui se passe en Israël, si vous regardez la géopolitique, si vous regardez tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est pour bientôt. Soyez prêts. Soyez prêts dans l'espérance, soyez prêts dans la joie. On y va. Jésus vient nous rechercher. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit juste attendre comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, allez annoncer, allez prêcher le salut à partir de Jérusalem, ensuite la Judée, la Samarie, les extrémités du monde. Ce n'est pas les disciples qui sont allés jusqu'aux extrémités du monde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis à prier, ils se sont mis à porter du fruit, il y avait des guérisons, des signes, des miracles, parce que revêtus de la puissance du Saint-Esprit, Jésus confirmait par des signes et des prodiges leur prédication, ça continuait, et qu'est-ce qui s'est passé? La persécution. Et la persécution a fait que les gens se sont dispersés. Et à force de se disperser, et se disperser encore, eh bien ça a fait le tour du globe. Jusqu'à nous. Et nous, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue, on a cette espérance, de toute façon, moi, je monte. Donc, tout ce que je peux faire sur terre pour le Seigneur, je le fais. Parce que je sais que quoi qu'il m'arrive, je monte. Et comme ça, j'ai l'espérance et je réponds au mandat de Dieu. Je vais m'arrêter là, mais je vous propose juste de fermer les yeux un moment et simplement vous poser la question, où est-ce que je me situe dans mes compréhensions ou dans l'état de mon cœur, l'état de ma vie spirituelle aujourd'hui? Est-ce que j'en suis avant la crucifixion? Je connais un peu la parole, je connais des choses sur Jésus, mais je ne comprends pas trop ce que ça fait dans ma vie. Je suis ici par culture ou parce que je suis obligée, parce que mes parents viennent et je dois suivre. Ou est-ce que j'en suis après la résurrection? Je comprends bien qu'il s'est passé quelque chose, je le crois dans mon cœur. Je suis convaincue. Je pense que je suis sauvée, je confesse le Seigneur. Mais je ne sais pas trop quoi en faire de plus. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Où est-ce que j'en suis après l'ascension? et que je suis pleinement dans l'appel que le Seigneur a déposé sur ma vie, dans l'espérance, sans crainte, sans timidité, rempli de ferveur dans la prière. Où est-ce que j'en suis? Et je vous propose maintenant que, quand on a les yeux fermés, que si quelqu'un veut élever une prière vers le Seigneur, juste pour lui demander, « Mais Seigneur, viens me rejoindre là où j'en suis, parce que j'ai besoin d'aller à l'étape suivante. » Ou bien il me manque ça ou telle compréhension. C'est l'occasion maintenant de pouvoir mettre les choses devant Dieu, devant aussi des témoins. On est en famille, juste pour dire, « Ben moi, Seigneur, j'en suis là, mais j'aimerais aller là. Accompagne-moi. » Seigneur, moi je te confesse qu'il y a des moments où j'oscille entre avant et après ton ascension dans l'état de mon cœur. C'est vrai que j'ai compris beaucoup de choses, mais je sens qu'il y a toujours des blocages en moi. Je sens qu'il y a des choses, des fois je me sens comme dans un carcan et j'aimerais que ça se débloque, j'aimerais que tu ouvres mon intelligence, j'aimerais me mouvoir dans les lieux spirituels, dans les compréhensions spirituelles bien davantage que ce que je fais maintenant. Seigneur, je suis lente à comprendre. Et je te demande pardon parce que j'ai tout dans ta parole. Parce que j'ai plein de bouquins, parce que j'ai Internet, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour tout connaître. Et pourtant, il y a des choses en moi qui restent coincées. J'ai du mal à t'obéir. J'ai du mal à me positionner dans l'espérance. J'ai encore des peurs, j'ai encore la crainte de l'homme. J'ai encore peur du « quand dira-t-on ?» J'ai encore du mal à oublier ma vie pour la tienne. Et je te demande pardon et je te demande de venir m'aider. Je te demande de venir faire ces déblocages dans ma vie pour que je puisse être remplie de toi. Pour que je puisse être remplie d'espérance, pour que je puisse être efficace dans ton royaume, pour que je puisse comprendre les choses du ciel. Je vous encourage à prier avec moi et donnez votre cœur au Seigneur, dites-lui où vous en êtes, dites-lui. Et si tout va bien, eh bien remerciez-le, on ne le remercie jamais assez, on manque de reconnaissance. N'ayez pas peur d'élever votre voix pour le Seigneur. Élevez votre voix et dites-lui, appelez le Saint-Esprit, demandez-lui son aide, qu'il vienne vous rejoindre dans votre cœur. N'ayez pas peur, faites-le, appelez le Saint-Esprit là où vous en avez besoin, là où il faut qu'il vienne ranimer quelque chose. Je vois, c'est comme s'il y a des boutons de fleurs, il y a quelqu'un, son cœur est comme un jardin. C'est un jardin aussi qui est étriqué, il y a quelques fleurs, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a une fleur qui est en bouton serré, c'est un bouton tout serré. Et Saint-Esprit, moi je te demande de venir toucher ce bouton de fleur pour que les pétales puissent éclore, pour qu'elles puissent s'ouvrir, qu'elles puissent s'épanouir. Et je te demande que le jardin de chacune de nos vies puisse être un jardin fleuri, un jardin où les fleurs puissent éclore. Je te demande que tous nos pétales puissent s'épanouir. Pour qu'on puisse s'ouvrir à ta lumière. Saint-Esprit, j'appelle ta lumière et je te demande de venir rejoindre chaque personne ici, chaque personne qui a faim et soif de toi, chaque personne qui aimerait franchir une étape de plus. Les personnes qui ont des murs devant elles, que ces murs, dans le nom de Jésus, soient brisés. Qu'ils tombent et que toutes ces personnes puissent aller de l'avant, aller dans l'étape suivante. Je te demande un nouveau palier. Que chacun d'entre nous en puisse aller au palier supérieur avec toi. Ouvre nos compréhensions. Saint-Esprit, viens, viens dans nos compréhensions. Viens renouveler notre intelligence. Viens à notre aide. Merci, Seigneur.